Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Le problème des trucs en isme, je sais pas moi, le libéralisme, le communisme, l'anthropophagisme, le fascisme, l'alpinisme, pour ne citer que quelques exemples, c'est que le plus souvent, ils sont totalement dénués d'humour. On peut en rire, certes, et même bien s'amuser avec, ce qui généralement les agace au point de vous expédier parfois au goulag du moment, et donc il convient de bien mesurer les risques en s'aventurant sur ces terrains-là. Et quid du féminisme, un des ismes dont notre époque est, on s'en réjouira, friande. Eh bien, force est de reconnaître qu'à quelques exceptions près, l'esprit de sérieux l'emporte le plus souvent. Alors vous me direz, la colère, ça peut tempérer l'envie de rigoler, et vous aurez raison. Mais quand par hasard ça se produit, il est alors déraisonnable de bouder son plaisir. Voilà exactement ce que m'a inspiré Le sexe des femmes. Enfin, je veux dire, le livre d'Anne Akrisch, intitulé Le sexe des femmes. Écrit à la sulfateuse, d'une plume acide et caustique, et oui, par moments tordante, et qui œuvre pour une réconciliation des désirs. Autant dire que ce livre, son sujet et son auteur avaient tout pour nous plaire. Ça tombe bien, les trois sont les invités de Pop 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 et Pop Pop Pop, c'est parti.
France Inter, Pop Pop Pop, Antoine de Caunes.
Bonjour Anne Akrisch.
Bonjour Antoine de Caunes.
Bienvenue dans Pop Pop Pop.
Merci.
Je sais que c'est un effort considérable pour vous de venir vous exprimer devant un micro.
Non, non, je suis très très à l'aise. Non,
j'ai trahi un secret. Non, mais dit que c'était
un peu apocalyptique de me déplacer jusqu'ici, mais regardez,
alors
je suis là.
Il ne faut pas. D'abord, on est ravis que vous soyez avec nous dans ce studio et vous allez voir, ça va très très bien se passer. Respirez. Voilà, détendez-vous et nous sommes partis pour une heure d'émission inoubliable. Alors, vous venez aujourd'hui nous parler de votre nouvel essai Le sexe des femmes qui vient de paraître chez Gallimard. Et nous allons en parler longuement avec Charline qui nous rejoindra dans quelques minutes. Mais avant cela, Anne, il y a beaucoup à dire sur vous, si vous le voulez bien, et nous allons faire plus ample connaissance. Pour commencer, un chiffre. 17 000 kilomètres, c'est la distance qui sépare Tunis de Tahiti, soit les origines respectives de vos parents, parce que vous êtes à la fois d'origine polynésienne et tunisienne. Ça donne quoi ce mélange antipodique? Quel côté l'emporte?
Je pense que les deux sont à égalité en moi, mais le côté ilien est assez présent. Mm-hmm. Mais oui, il y a les deux facettes un peu éloignées. 17 000 kilomètres, vous êtes très très fort.
Ah oui, j'ai calculé. Non, ça s'est pas sorti comme ça tout seul. Alors plus sérieusement, j'imagine que pour vous, la question de l'identité se pose en termes particuliers, parce qu'il n'y a pas vraiment de large communauté tuniso-polynésienne.
Non, je suis assez seule de mon espace. Ouais. Mais non, mon père déjà il a quitté la Tunisie parce qu'en fait il était français, il est né en Tunisie mais français car juif, et son père était algérien et donc il a bénéficié du décret Crémieux et lui est né français, et c'est parce qu'il était français qu'il a dû faire son service militaire et que donc il est sorti dernier de l'école des officiers. On l'a envoyé en punition à Mururoa, là où il y avait les essais nucléaires. Et en fait il n'y est pas allé, il est resté à Tahiti.
Heureusement voilà. Pour lui et pour vous.
Et pour moi.
J'imagine. Est-ce que ces rivages plus ou moins lointains ont eu une influence sur votre vocation d'écrivain, votre envie d'écrire, ou votre imaginaire?
Ça, c'est sûr que quand on grandit à Tahiti, enfin, quand moi j'ai passé mes années d'adolescence et qu'on vit à l'intérieur d'une carte postale ou d'un mythe, on a envie un peu de déchirer le voile. Mmh. Et ça participe absolument au fait d'écrire.
Et vous qui aimez tant battre en brèche clichés et stéréotypes, comme vous l'avez si bien prouvé avec ce livre, Il faut se méfier des hommes nus, qui tournait autour de la love story entre Marlon Brando et la Polynésie, ou encore dans le traité de savoir rire à l'usage des embryons, qui était un anti-manuel de grossesse. Vous aimez bien bousculer ces idées reçues, déchirer la carte postale, aller voir de l'autre côté?
Oui, pour Il faut se méfier des hommes nus, c'est vrai que... En fait, Tahiti, c'est un lieu très romanesque, parce qu'on connaît que la carte postale, justement. Ouais. Mais évidemment, il y a autre chose sous cette carte postale et c'est très, très intéressant d'aller explorer tout ça, parce que c'est un lieu quand même où il y a un côté beaucoup plus sombre et beaucoup plus noir que ce qu'on imagine. Mmh. Et donc, à la fois, grâce à ce livre et Marlon Brando, j'ai pu un peu m'attaquer, un peu écorner ce mythe-là, le mythe du bon sauvage.
Vous avez l'impression que c'est un endroit tellement idéalisé qu'on passe complètement à côté.
Complètement à côté. Personne ne sait rien de ce lieu et en même temps, c'est si lointain. Mais en même temps, on ne c'est rien de sa géographie, c'est plus de 100 îles, c'est un territoire grand comme l'Europe, ça fait de la France la deuxième puissance maritime mondiale. Bref, c'est un endroit intéressant, et aussi c'est quand même l'histoire de la colonisation.
Ouais.
Parce qu'on connaît mieux la colonisation de l'Afrique du Nord, qui est mais beaucoup moins la colonisation du Pacifique, qui reste quand même une histoire coloniale aussi à part entière.
Anna Krish, nous allons dans quelques instants parler de vous, de votre vie et de votre œuvre, mais avant cela, je vous propose que nous écoutions ensemble un jeune artiste dont l'annonce de la tournée en mai 2023 a rendu littéralement fou d'excitation tous ses fans. C'est un certain Bruce Springsteen, c'est pas facile à dire. Et oui, tous ses fans sont en feu.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
Donc en concert le 13, le 14 mai 2023, peut-être d'autres dates, on verra. Bon, là pour l'instant nous sommes en compagnie d'Anna Krish et on va commencer par le commencement, ma chère Anne, qui venait parler du sexe des femmes, votre nouvel essai chez Gallimard. Et je voudrais revenir aux origines de votre vocation d'écrivain. Vous dites qu'a priori rien ne vous y prédisposait et que vous n'aimiez pas particulièrement lire quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis d'un seul coup ?
Mes parents m'ont forcé, m'enfermé dans des chambres à double tour. Ils me disaient maintenant tu vas lire. Donc je suis devenue une lectrice contrariée, quoi.
Enfin, mais ça marche ça ?
Ben, ça marche, ça a marché avec moi.
Ah oui.
Donc à un moment, je me suis dit mais ils ont peut-être raison, c'est peut-être vachement bien.
Et vous enfermez avec quel genre de livre ?
tout ce qu'ils trouvaient. Ils me disaient maintenant tu vas lire. Et c'est vrai qu'à Tahiti, comme c'est un lieu très éloigné, et avoir des livres, ça, attention, gros cliché, mais ouais. Ça ouvre quand même sur une porte sur
certains horizons.
Oui, qui est quand même bloqué par la mer de tous les côtés.
Parce que oui, vous avez passé votre adolescence à Tahiti, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la description que vous en faites dans vos livres, et notamment dans ce fameux livre dont nous parlions il y a un instant, Il faut se méfier des hommes nus, paru chez Julliard en 2017, est très très éloigné du paradis terrestre dont on continue à perpétuer l'image. Comment ça se fait que ça continue à véhiculer le...
Parce que je pense que dès la découverte, l'image a été fixée et elle n'a pas bougé. En fait.
Oui, mais les moyens de communication ont changé. Maintenant, on sait.
Pense qu'on tient trop à cet endroit comme un paradis pour y renoncer. On renonce pas au paradis aussi facilement et on n'a aucune envie de savoir ce qui se cache derrière.
Anna Krish, vous avez d'ailleurs dit que la plupart des artistes qui sont tombés amoureux de Tahiti, comme Gauguin, ont finalement échoué, sans mauvais jeu de mots, et n'y sont pas restés. Pourquoi ? Il y a eu un malentendu ? Ils y allaient pour les mauvaises raisons ?
Ils y allaient pour... Oui, évidemment, c'était pour retrouver le bon sauvage, pour retrouver un état de nature, et toutes ces choses, elles sont illusoires. Mais Marlon Brando, en revanche, lui, il a toujours aimé cette île, et il s'est toujours dit que c'était vraiment l'endroit le plus beau, habité par les personnes les plus naturelles, les plus gentilles, les plus accueillantes, qui connaissaient ni l'envie, aucun vice. Et alors, lui, c'est resté. C'est vraiment demeuré toute sa vie. C'est ça qui est assez marrant avec Marlon Brando. Tous les autres, ils en sont revenus.
Ouais.
Parce que c'est...
Marlon Brando, est-ce qu'on parle bien du même Marlon Brando, celui-ci ?
Hey, shut
up! You put that howling down there and go to bed.
Yes, I want my girls out here.
You shut up! You're gonna get the law on you.
Stella!
You can't beat on a woman and then call her back because she ain't gonna come. You're gonna have a baby.
Listen, you're...
I hope they haul you in and turn a fire hose on you like they've done last
time.
You stink.
Hey, Stella!
Stella, Marlon Brando, ici, dans un tramway nommé Désir, le film d'Elia Kazan qu'il a révélé en 1951. Brando, donc, sur lequel l'héroïne de ce roman, Cheyenne, doit écrire un scénario. La fascination de Brando pour Tahiti, c'était votre point de départ ou votre point commun, ou bien est-ce que c'est l'univers tourmenté de Brando qui vous intéressait ?
Moi, c'était un peu tout ça à la fois, parce que Brando, il fait partie du folklore local. Parce que c'est vrai que Gauguin et tout ce qui était pris en charge par les peintres ou par les musiciens, maintenant c'est le cinéma et c'est l'hôtellerie de luxe. C'est un peu ça. Donc Brando, il fait vraiment, c'est le dernier mythe qui est associé à Tahiti.
Oui, son fameux atoll est devenu
un complexe autre... hôtelier de luxe absurde à 10 000 euros la nuit. Oui, alors que lui, il l'avait conçu comme un paradis sauvage et c'est vrai que c'était très, c'était très beau. Il y avait une petite portion de famille, voulait créer une académie et maintenant c'est un lieu inatteignable, inapprochable qui est fait pour les riches américains.
À travers Brando, vous dressiez le portrait d'un type qui est au fond un peu comme Tahiti, c'est-à-dire bien moins séduisant que l'apparence. Tous ceux et celles qui l'ont approché, ce fameux pays, cette Polynésie, s'y sont brûlés les ailes d'une certaine manière ?
Non, mais moi, tous mes amis, toute ma famille, toutes les personnes qui y vivent, ils sont très heureux et ils m'en veulent presque d'en faire un portrait aussi ouais. sombre.
Ça éloigne les touristes en même temps.
Donc non, c'est moi qui ne suis pas tout à fait sortie d'une construction un peu horrifique de mon adolescence, mais je suis peut-être aussi encore une fois seule de mon espèce à penser ça.
Mais non. Alors, cette héroïne qui doit écrire un scénario n'est pas très éloignée de vous, Anne, puisque vous avez vous-même écrit un scénario, et pas avec n'importe qui, puisque vous êtes partie à New York écrire un film avec Jerry Schatzberg, oui, le mythique réalisateur de ceci.
If I went away somewhere, would you come with me?
Where?
Somewhere.
Ça, c'était un extrait de Panique à Needle Park, le premier grand rôle d'Al Pacino en 71 de Jerry Schatzberg, donc. Et c'est avec lui que vous avez écrit un scénario. Comment ça s'est passé, cette histoire ?
Oh, je cherchais un stage, une amie photographe qui s'appelle Katarina Jeb, qui est une amie de Jerry, me l'avait présenté. Donc j'étais partie là-bas et puis on avait écrit ce scénario qui n'a évidemment jamais été tourné parce que je suis quand même spécialiste des projets avortés. Donc ce film fait partie. Mais c'est vrai que c'est toujours agréable à dire. J'ai écrit un film avec Jerry Schatzberg qui n'existe pas.
Ouais. C'est encore mieux peut-être même. Non. Comment s'appelait ce film ?
Il s'appelait Searching for Anna.
Ah, Searching for Anna, je vais quand même faire mes recherches. Mais, parce que moi aussi j'ai fait des stages, mais on ne m'a jamais proposé d'écrire un scénario avec Jerry Schatzberg.
Vous voyez, vous y prenez mal, je vous expliquerai comment on fait.
Anna Grish, dans quelques instants, nous serons rejoints par Charline pour parler de ce nouvel essai, Le sexe des femmes, paru il y a 2 semaines chez Gallimard. Mais avant cela, je vous propose d'écouter ensemble un morceau qui n'est ni tahitien ni tunisien, mais qui évoque pourtant le Sud. D'ailleurs, on dirait le Sud, c'est Nino Ferrer.
Qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux. Car oui, voici que nous sommes rejoints par Charline Roux, mais on dirait le Sud.
Bonjour.
Bonjour. Oui, bien sûr, la Picardie qui est au Sud par rapport.
Des Hauts-de-France.
Au Grenland.
Le Sud des Hauts-de-France.
D'accord. Okay. Charline, qu'en est-il du livre du sexe des femmes de notre invitée Anne Akrisch ?
Un formidable livre sur ce que veulent les femmes et qu'on leur a demandé de taire ou qu'on a dévoyé, parce que quand il est question de femmes et de désirs, on va quand même pas les écouter non plus. Un livre jouissif, Je pèse mon mot, qui remet au centre, je cite, l'organe le plus intelligent du corps humain, à savoir le sexe des femmes, donc. Et je me permets une autre citation. Abrasive, hilarante et grave, Anne Akrisch est un courant féministe à elle toute seule. C'est ce qu'on peut lire sur le beau bandeau rouge qui habille votre livre et c'est signé Virginie Despentes. Ça vous place d'emblée sous de très bons auspices.
Oui, on ne fait pas mieux que Virginie Despentes, qui est la reine, la papesse, l'impératrice, qui a quand même ouvert la voie et qui, en plus d'être un grand écrivain, est une personne exceptionnelle.
Un de vos livres précédents, Anne, avait pour titre « Il faut se méfier des hommes nus ». On en parlait il y a encore quelques instants avec vous de la Polynésie. Faut-il se méfier du sexe des femmes ?
Absolument.
Il faut se méfier de tout, en fait.
C'est un bon principe dans l'existence, vous méfiez. Oui, je pense que le sexe des femmes... parce qu'il engage tellement de choses différentes en termes de désir, de maternité, de vieillissement, de temps féminin, et est capable de tout.
Mmh. Mais sinon, vous êtes d'un naturel méfiant ?
J'ai très peur de vous, là, par exemple.
Comment ça, je vous regarde d'une manière... J'essaie de vous rassurer depuis le début de cette émission.
Eh bien, ça ne marche pas, toi.
Je vous regarde comme ça, maintenant, vous, Charline.
Ok.
Oui, ça marche moins, maintenant.
Un mot de la forme. Le sous-titre du livre, c'est « Fragments d'un discours belliqueux ». Ce livre vous est venu, justement, de manière morcelée, ou c'était la forme idéale pour vous raconter ?
Non, je me suis essayée à plein de genres. Mmh. J'ai essayé la mise à distance par la fiction, le récit autobiographique. J'ai vraiment tout essayé, un peu de stand-up, en tout cas, de pure morceau d'humour, et j'ai essayé de remalaxer tout ça, et ça a donné ce monstre un peu bizarre et fragmentaire.
Anna Krich, c'est un titre qui fait écho au fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. L'époque est plus à la baston. Aujourd'hui, les rapports se sont tendus, si je puis dire. Vous dites que la vie sentimentale et sexuelle est devenue un champ de bataille. Alors c'est plutôt ambiance champ de bataille, bataille rangée ou guérilla ? Comment vous voyez ça ?
C'est vrai qu'il y a une crispation aujourd'hui terrible dans le discours, et c'est vrai qu'il y a une violence, mais même... c'est ce que j'interroge aussi, c'est ma propre colère. Le livre démarre par la colère d'une femme qui ne sait pas comment elle en est arrivée là, mais qui a envie de foutre des coups de boule. Et donc c'est comment on en arrive là. C'est quand on a interrogé aussi cette colère et cette voilà.
Ben justement, le livre part de l'archéologie de votre haine et remonte le fil en partant de ce que vous appelez la préhistoire à la fin de votre innocence. Quelle est la genèse de ce discours belliqueux?
Ben je remonte le fil de mes souvenirs, et donc de manière un peu comme ça disparate, les souvenirs remontent. Donc c'est mon adolescence à Tahiti, c'est toutes les premières fois, et puis après c'est plein de considérations générales sur les débats actuels. Et puis ça se transforme un peu en espèce d'essai, mais pas tout à fait réussi non plus. Donc voilà.
C'est
la jeunesse. La jeunesse, c'est un échec, c'est des échecs successifs.
Est-ce qu'il vous a fallu plusieurs livres avant de pouvoir écrire celui-ci ?
Ah oui, il m'a surtout fallu plusieurs années pour arriver à un livre qui n'est pas très long, mais
intense.
Mais il fallait vraiment que j'en passe par plusieurs formes, je crois, pour en arriver là. Mmh.
La fin de l'innocence, hein, dans ce paradis terrestre qui lui-même n'en est plus un, ce sont des désillusions en cascade. Est-ce que la découverte de la littérature est plus particulièrement de la littérature contemporaine, des auteurs comme Bret Easton Ellis, par exemple, se sont révélés un précieux secours.
Secours, oui. Absolument. Bret Easton Ellis, pourquoi vous pensez?
Parce que je sais que vous le lisez,
oui.
qui fait partie de vos auteurs.
Oui, bien sûr. Mais alors ça, c'est encore un énorme cliché, mais les livres ont été d'un immense secours pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs. Et la lecture, et ensuite le passage à l'écriture, m'a sauvée. On se croirait dans une très très mauvaise émission. Je suis désolée.
Mais non, mais c'est ça.
Je vous ai fait la généalogie de mes parents. Mon père.
C'est votre histoire. Et alors, c'est pas du tout un cliché, la littérature qui vient en secours comme ça dans l'existence. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un cliché.
Si. Mais non, mais par exemple, moi, votre livre, je vous le dis sincèrement, je l'ai lu. Il y a eu plein de points d'accroche et plein de chapitres, ou en tout cas de fragments, comme vous dites. Je vais pas dire d'un secours parce que c'est des événements qui sont passés, mais qui m'ont parlé et qui ont une vraie répercussion dans la manière dont je pense le monde et mon rapport au monde en tant que femme. Donc c'est un secours d'une certaine manière quand même.
C'est vrai qu'à un moment, quand on est une femme, on se met à compter les événements un peu traumatiques, pour employer un gros mot, et c'est vrai qu'on fait la somme, un espèce d'inventaire qui est assez à la fois flippant, triste, mais qui peut aussi permettre de rire un peu et de se réconcilier.
Mais alors justement, très rapidement, les enjeux, en tout cas vos enjeux, sont posés. Au Moyen-Âge, le désir se disait talent. Pour moi, les deux se confondaient. Mon désir me conférait talent et pouvoir. Mon désir me grandissait. Et le moment où il m'échappe coïncide avec celui où mon sens de l'humour me fait défaut. Sans le rire, que faire de ma tristesse? Et sans la jouissance, que reste-t-il de moi? Fin de citation. Désir, pouvoir et rire ont toujours été intimement liés.
Oui, oui, évidemment. Et c'est vrai que la reconquête du désir ou même du corps, elle passe aussi par une reconquête de l'humour et de à nouveau s'emparer de choses qui étaient confisquées peut-être par le masculin et qui là tout à coup se retrouve ressaisie dans le même mouvement, à la fois parvenir à rire de ces choses et une réappropriation du corps tout simplement.
Est-ce que vous êtes amusé en l'écrivant comme on s'amuse d'ailleurs?
Il y a des passages où je force le trait évidemment, parce que ça sert des dessins comiques, et donc là dans ces passages-là je me suis beaucoup amusée, surtout en évoquant la liste de mes nombreux amants, surtout les mauvais, qui m'ont permis d'écrire les passages les plus drôles de ce
qui film, se reconnaîtront.
Qui se reconnaîtront, j'espère, et que je salue.
Au passage. Donc
ces moments-là, oui, c'était plutôt amusant, mais c'était aussi une manière de parvenir à écrire les morceaux moins amusants,
bien sûr.
Qui ont été plus difficiles à écrire.
Je disais que c'est peu courant dans les ouvrages dits féministes, et encore, c'est un terme générique très, très réducteur.
Mais c'est une attaque assez commune de dire que les féministes n'ont pas le sens de l'humour, alors que c'est pas forcément vrai et qu'il y a une tradition assez comique aussi dans le féminisme, mais on peut aussi comprendre qu'il y a des moments où on perd ce sens de l'humour et on perd les ressources nécessaires pour arriver à rire des choses.
Ouais.
Et c'est absolument ça que je voulais m'empêcher, l'écueil dans lequel je voulais pas tomber, c'était de plus réussir à rigoler, quoi, qui est quand même la chose la plus importante.
Nous sommes bien d'accord.
Le livre réjouira l'amicale des sorcières, celles qui connaissent déjà les quelques secrets contenus en cet endroit que ces messieurs ne sauraient nommer et encore moins localiser. Et je ne saurais dire s'il contribuera à éduquer ou à effrayer encore plus ceux qui nient ou instrumentalisent le désir des femmes. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Est-ce que vous avez des retours d'hommes?
J'ai certains retours d'hommes, certains qui me disent « Pourquoi est-ce que tu nous attaques alors qu'il suffirait de nous dompter ?» Alors ça, c'est un bon retour.
Nous ne sommes pas vos parents.
Non. Non, mais c'est vrai, parfois on a l'impression que les hommes, il faut les tenir par la main et les accompagner, faire joujou avec leur gros tuyau d'arrosage, et alors que... pas forcément. Je pense qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Ils peuvent aller arroser les plantes en essayant de viser au bon endroit, par exemple.
Des retours d'hommes. Je suis un homme, personne ne me demande mon retour.
Alors, moi, justement,
moi,
Antoine.
J'ai adoré ce livre, tout homme que je sois. Vraiment, je me suis poilé. J'ai été très touché aussi par la force, la pertinence de votre propos.
Donc, voilà. Je vous remercie. Et d'autres hommes aussi sont capables de lire et de rire de ces
évidemment.
Choses. Je compte sur eux. Quoi. C'est aussi une main tendue vers les hommes, ce livre. C'est pas simplement un truc pour rester entre femmes. Et c'est aussi pour ça que j'ai essayé que ce soit un peu drôle. Ça me semblait plus habile de les amener à réfléchir à certaines choses par l'humour plutôt qu'à se crisper par l'agressivité.
Eh bien, nous sommes là. Anna Grich, on va continuer à parler de cet essai Le sexe des femmes, paru chez Gallimard, dans un instant. Mais il est déjà 16h32, ça veut dire que c'est l'heure des Pop News.
Après La Belle et la Bête, Aladdin ou encore Le Roi Lion, saurez-vous deviner quel dessin animé Disney va avoir droit à son remake en prise de vue réelle? Tendez l'oreille, c'est Tom Hanks qui fait un souhait.
Star light, star bright. First star I see tonight. I wish I may. I wish I might. Have the wish I wish tonight.
When you wish upon a star.
Pinocchio, bien sûr, avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto, et c'est Joseph Gordon-Levitt qui prêtera sa voix à Jiminy Cricket. Le film réalisé par Robert Zemeckis arrivera sur Disney+ le 8 septembre.
Quelques mois après avoir annoncé son départ d'Arcade Fire, Will Butler dévoile deux titres solo parmi lesquels A Stranger's House.
But when the sirens shifted near, they sang from my mind.
Le second morceau de Will Butler, tout aussi atmosphérique, est intitulé Nearer to Faith, et les deux sont dispo sur toutes les plateformes légales.
Dans les goûts et les couleurs de Michel Leclerc, Rebecca Marder et Marcia, une jeune chanteuse passionnée qui enregistre un album avec son idole d'Arejan, Judith Chemla, une icône rock des années 70, sauf que celle-ci disparaît soudainement. Alors pour sortir leur album, Marcia doit convaincre l'ayant droit de Darejan, Anthony, Félix Moati, placé sur le marché d'une petite ville qui n'a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique.
Il vous êtes qui exactement?
Une grande admiratrice de votre grande-tante. Comme vous êtes liés en droit, il faudrait qu'on voit ce qui serait le mieux pour sortir l'album.
Je vous arrête tout de suite, je m'en bats les couilles de votre album.
Mais vous avez pas le droit.
Bien sûr que j'ai le droit, je suis liés en droit même.
L'odeur du sang, le manque d'air.
23 000 euros, pour une minute de chaussons. L'héritage, tout, j'accepte. En fait, moi, je m'y connais pas en Darajan. Alors que toi, si.
Je ne vois que des avantages.
Que des avantages, un grand inconvénient, devoir supporter ce connard.
Mon île, nouvelle gamme de maillots de bain. Pour le spot, on a pensé à ce hit de Darajan.
Déjà, j'aime bien, moi.
Tu m'as suivi jusqu'ici? T'espères quoi?
J'espère quoi? T'enlever, casser la gueule à tous ceux qui t'approchent.
Tu sais parler aux femmes, toi.
Et les goûts et les couleurs, ce sera le 22 juin dans les salles.
France Inter. Pop, pop, pop.
Pinocchio.
Mais oui, bravo Charline.
Ouais, ah, je connais mes classiques.
Bravo, bravo, bravo et merci. Nous sommes de retour avec Anna Krish pour parler de son livre Le sexe des femmes.
Et il y a un fragment dans ce livre intitulé Vices et vertus de la dissimulation dans lequel vous dites « L'association de la bonne éducation et de la dissimulation a achevé de parfaire mon majestueux tempérament de faux cul, le sourire et l'amabilité devenant les paravents du mensonge et du mépris. » La duplicité, quand les désirs sont étouffés, c'est une question de survie.
La duplicité, j'ai l'impression, quand on grandit comme une fille, déjà c'est une question de survie, parce que on apprend toutes sortes de subtiles habitudes de comment se comporter, comment parler, comment réagir, et ce qui n'a rien à voir avec le bouillonnement intérieur qu'on peut ressentir. Et donc on est complètement double, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup été.
Anna Krish, vous ajoutez même que vous ne pouvez prendre la parole qu'en rusant. Je ne sais pas si c'est ce que vous faites en ce moment. Que vous commettez des crimes en plaisantant que l'humour est votre alibi. C'est aussi une arme redoutable, l'humour. Est-ce que le sérieux, en littérature, j'y reviens souvent, hein, disons, l'esprit de sérieux vous pétrifie?
Ah, l'esprit de sérieux, oui, ça me paralyse complètement. Mais en même temps, l'humour n'est pas une tradition tout à fait... française.
Satire, non?
Mais c'est vrai que j'aborde des sujets tellement malaisants que l'humour, ça me semble à la fois être le véhicule par lequel on peut aller le plus loin, ouais. Et puis le plus subversif, quoi, tout simplement. Et puis ce qui m'intéresse, c'est ce qui égratine, ce qui fait mal.
Notre terrain de jeu ici étant la pop culture, et puisqu'on parle de la terreur qu'inspire le sexe des femmes, vous notez dans le livre, et c'est irrésistible de drôlerie, que bon nombre de monstres de films hollywoodiens, Predator, Alien, ressemblent à des vagins, avec une préférence en ce qui vous concerne pour le cerveau à valeur de pensée de Starship Troopers, soit une vulve géante affublée de 8 yeux. Cette terreur, elle a aussi contaminé la pop culture.
Oui, évidemment, mais c'est sans doute des hommes qui sont tout seuls devant une feuille de dessin et qui se disent, mais alors quelle est la chose la plus terrifiante au monde? C'est un vagin. Non, c'est amusant de voir ça.
Mais alors, je ne sais pas si vous m'avez contaminé, mais je regarde Stranger Things, et du coup, il m'est apparu que le monstre, j'ai dit, mais ça aussi, c'est quand même dingue. Quoi. Alors j'en vois partout maintenant.
Vous en voyez partout, alors qu'on aurait pu imaginer qu'avec le renouvellement des générations, je ne sais pas, que ça allait bouger, ça, non? Mais en fait, l'imagerie reste toujours...
Oui, il y a quelque chose de profondément terrifiant, je pense. C'est archaïque. Le vagin denté. Ouais. C'est la crainte des dents.
Pourquoi c'est pas denté?
Il paraît que non. Ouais. Rien n'est bien séant. Debout dans un endroit où rien n'est la décence, voici ce qu'on peut lire dans la presse à propos du sexe des femmes. Est-ce que vous avez justement l'impression d'avoir écrit un livre si irrévérencieux que ça? Et qu'il soit considéré comme tel, est-ce que c'est pas là aussi une des sources du problème?
Bah si, complètement. Parce que ça devrait être complètement has-been, ce que j'écris aujourd'hui. Et puis je suis pas la première. C'est quand même des gens foncent des clous qui ont été plantés par d'autres. Quand même. Je dis rien de vraiment nouveau. Ça a déjà été dit. Et pourtant, ça semble encore actuel. Donc, c'est quel est le problème? Ça, c'est on voit à quel point la lenteur du changement des mentalités, c'est à l'œuvre. C'est assez terrifiant.
Si, c'est que votre livre peut être abordé beaucoup plus simplement aujourd'hui qu'il ne l'aurait été il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ça serait passé presque sous le manteau, enfin inaperçu. Là, aujourd'hui, on en parle. Regardez très librement sur cette antenne.
Ouais, je pense qu'il y a une écoute qui est plus grande, une sensibilité peut-être. Oui. À la thématique qui est plus grande aujourd'hui. Et donc, il y a des choses qui sont plus audibles et plus acceptables.
Et puis, vous maniez aussi, Anna Krish, divinement bien le chaud et le froid, le drôle et le glaçant.
C'est la Tunisie et Tahiti, ça.
Ah, ben voilà, nous y sommes.
Alors, autre zone de non-droit à laquelle vous vous attaquez, autre chapitre des plus réjouissants, celui sur la maternité. Et là encore, je vous cite, « La maternité est une matière hautement inflammable qui se manipule avec des gants amiantés. Un périmètre de sécurité de récit autorisé l'entoure. Il faut apprendre à maîtriser le champ lexical de l'émerveillement, de la joie, de l'épanouissement. » Fin de citation. « Exclusion faite de tout autre sentiment. » Alors déjà, merci pour ce moment. Et cette confiscation du droit à ne pas vivre une épiphanie, à quel moment est-ce qu'elle est passée d'une injonction masculine, selon vous, à un fardeau qu'on se transmet entre femmes? Parce que c'est un peu le cas aujourd'hui.
C'est vrai que ça reste un des derniers bastions, la maternité. On a encore beaucoup, beaucoup de mal à remettre en question le bonheur auquel on l'a longtemps associé. Alors aujourd'hui, il y a des études, mais elles se font toutes sous anonymat. Les mères regrettantes, c'est des témoignages qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, mais toujours derrière un voile, quoi. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas dire aussi facilement, aussi aisément. Et d'ailleurs, moi, c'est le chapitre dans lequel je me suis le plus censurée, parce que sinon, je serais allée encore plus loin. Mais comme j'ai un fils, je ne voudrais pas que ça finisse... comme dans Psychose.
Non, mais en plus, vous le dites très bien dans le chapitre, le fait de ne pas forcément aimer la grossesse ne fait pas de nous des mauvaises mères. Je dis nous parce que je m'inclus dans la conversation, mais il y a encore un tabou de ce côté-là. On n'a pas le droit de dire « Ah, c'est génial, la vie pousse en moi ». Non.
La grossesse, c'est horrible, mais après, les premiers mois de la vie d'enfant aussi, c'est atroce. Et puis après, plus ils grandissent, plus c'est terrible. Donc ça reste quand même une expérience un peu difficile.
Et puis Anna Krisch, vous aviez déjà consacré un ouvrage à la maternité il y a 4 ans, avec ce traité de savoir rire à l'usage des embryons. Et ça, c'était pour prévenir votre enfant, votre fils, et lui éviter une
psychanalyse.
Une vingtaine d'années de vivant, oui. Vous croyez que ça va marcher?
Non, je pense que je l'ai précipité là, dans une thérapie précoce.
Et alors, dans le livre, vous parlez aussi de ce qu'on nomme la zone grise, c'est-à-dire cet espace où on peut faire croire aux femmes qu'elles ont provoqué une situation et qu'elles en ont finalement joui juste avant d'accuser un brave bougre qui n'a jamais eu l'intention de forcer qui que ce soit. Ce sont vos mots. Le tout pour justifier l'injustifiable. Est-ce que les inventions lexicales sont aussi une arme de destruction massive?
Oui, bien sûr, mais c'est surtout le manque de précision et le manque de diversité dans les mots, que ce soit pour la zone grise, qui est une espèce de gros fourre-tout qui sert à rien, dans lequel on met n'importe quoi, mais ça vaut aussi même pour le viol. C'est-à-dire que ce mot qui est censé décrire une réalité bien claire, en fait, elle dépeint 150 000 situations. Et tant qu'on n'aura pas un peu mieux classifié, un peu donné un peu plus de profondeur lexicale à tout ça, on va avoir du mal à nommer les choses et donc à s'en sortir.
Et pour clore le chapitre vocabulaire, silenciation, invisibilité, ressort systémique, conscientisation, empouvoirment, misandre, féminazie, des nouveaux mots ont fait leur apparition, c'est ce que vous constatez. Et vous semblez rester assez circonspecte face à certains de ces mots, et notamment la notion de sororité.
Non, mais j'ai absolument rien contre la sororité.
Non, bien sûr que non. Mais
en tout cas, l'usage qu'on fait du mot à tout va.
Parfois, on parle de dévoiement.
Autrefois, tout le monde était bienveillant. C'était devenu fou. Et la bienveillance était partout. Les chiens étaient bienveillants. Il n'était absolument pas bienveillant. Il a faim. Enfin, et c'est pareil avec la sororité. Maintenant, il y a des filles qui vont acheter des cupcakes et elles deviennent hashtag sororité. Donc c'est pour ça que c'est... Mais ce que ça désigne de complicité et d'amour entre femmes, évidemment que c'est nécessaire. Mais le mot, parfois, mérite un peu les poils.
Vous allez beaucoup vous amuser et apprendre plein de choses en lisant Le sexe des femmes, le nouvel essai d'Anna Krisch, qui est sorti chez Gallimard il y a tout juste 2 semaines. Et vous l'aurez compris, on a adoré ce texte plein d'humour, de rage, que nous vous conseillons plus que vivement. Anne, vous restez avec nous, car dans quelques instants, nous allons décortiquer vos choix et vos conseils en matière de pop culture. Ce sera votre pop list. Mais avant cela, je vous propose d'écouter ensemble Gifted, c'est un titre de Koffi.
Level up, spin town, we original. In a Jordan, so we stepping out. Yeah, Jaja light shine for my retina. In my guide, all the steps I take. Yeah, guiding the steps I take. Whoa, young for me, grateful. Sit high for me, lay low. Balancing, me dep on the road in a quarantine. Me dep on the road in a Balenciaga. Eh, new Fenty for my Prada. Eh, thank you.
heart is a new day. Might get caught up in a new wave. Chop the track up in a new ways. If it taught me, get a few plays. Spin it and fling it on back. And if I sing it, I win a gold plaque. Yeah, next year platinum that. And them can't lock me up from my dreadlock, yeah. Killing them boomer, yeah. All these blessings where I come my way. Pray to the Father, say come by, yeah. Full up my plate and broke my tray, yeah. Bum. Oh.
Gift de vous écouter Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
Meurs, pourriture, communiste.
La cité de la peur. Donc le film de Les Nuls, c'est ce qui représente pour vous la pop culture. Anna Krish, expliquez-nous ce choix, parce que ça paraît anodin, mais c'est une définition de la pop culture en soi.
C'est, mais exactement, puisque c'est quand même l'Occident triomphant, ouais. Mais aussi plus simplement parce que c'est le film que j'ai dû le plus voir et qui était le plus partagé quand j'étais adolescente. Mmh. Et donc pour moi, j'entends ce son et immédiatement, ça, je suis plongée dans le passé. C'est un peu aussi ça, la pop culture.
Ah, mais pas que. Mais pas que. Bon, alors, tous les quatre, très bonnes portes d'ouverture vers la pop culture. Que ce choix. Bon, ben, de toute façon, ce film, il annonce aussi votre pop liste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série que vous attendez peut-être. Alors le livre que vous avez choisi, c'est Le dernier été en ville de Gianfranco Caligari. C'est ça ?
C'est ça.
Paru en 1973, mais seulement l'année dernière en français chez Gallimard. C'est une Dolce Vita, pas si Dolce que ça, ma chère Charline.
Rome, fin des années 60, Léo Gazzara vit de petits boulots pour des revues, pour des journaux. Ses jours se ressemblent et ses nuits sont souvent alcoolisées. Le soir de ses 30 ans, il rencontre Ariana. Trois petits points.
Trois petits points. Bah, complétez, Anne. C'est ce qui vous plaît tellement dans ce livre.
Moi, c'est le dernier livre qu'on m'a offert et... dont on m'a vanté les mérites, et c'est vrai que c'est un très beau roman crépusculaire qui vient juste d'être traduit, et donc c'est toujours agréable quand on est lecteur d'avoir l'impression d'exhumer un trésor enfoui, et puis il y a une grande quantité d'alcool qui est ingurgité, ça finit mal, bref, c'est un très beau livre.
Le secret d'un bon roman, c'est beaucoup d'alcool, oui. Une fin très triste,
oui, je viens de spoiler quasiment l'entièreté de l'histoire littéraire.
Votre film du moment, c'est le mythique La maman et la putain de Jean Eustache, lui aussi sorti en 1973, décidément, et qui ressort dans une version restaurée dans une semaine. C'est un film avec Jean-Pierre Léo et Bernadette Lafont. Charline, mais c'est aussi une affaire de triangle.
Presque un carré. Alexandre Genoisy vit avec Marie, boutiquière plus âgée que lui. Il aime encore Gilberte, étudiante qui refuse la demande en mariage qu'il lui fait. Il accoste alors qu'elle quitte une terrasse, Véronica, interne à la ENEC.
Bah écoutez, s'il vous plaît, autant que ça, mais baisez-la, tiens, baisez-la pendant que je serai à Londres.
Comment voulez-vous faire l'amour? Tendrement ou violemment? Chaque matin, chaque jour que nous ne passons pas ensemble est un jour que nous perdons. C'est un massacre, c'est un crime.
J'ai envie de rebaiser avec vous. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit de dire qu'elles ont envie de baiser avec un type?
Écoutez, mon vieux, je dois vous dire que vos amours commencent à m'emmerder.
Alors, Anne, je dois vous faire une confidence. Moi, j'ai vu ce film en 73, l'année de sa sortie. Vous l'avez découvert bien après. Moi, racontez-moi dans quelles circonstances, s'il vous plaît, Anna Krish. Je vous écoute.
Surtout, je ne l'ai jamais vu. C'est pour ça que...
Vous ne l'avez pas encore vu?
Mais non, parce que je me suis toujours refusé à le voir. Des
pourquoi
versions caviardées, parce qu'il était indisponible.
Oui, oui.
Et donc, il y avait des versions comme ça sur YouTube, mais je ne voulais jamais le voir. Et il y a une dizaine d'années, une projection au Champeau à Paris. Et au bout de 10 minutes, la pellicule pellicule a cramé et tout le monde a dû sortir en précipitation, ouais, malédiction. Et donc j'attends qu'il sorte en salle là, dans la semaine prochaine ou dans deux semaines, en version restaurée pour pouvoir le voir.
Pourquoi vous l'attendez tellement?
Parce que je crois que c'est encore une fois un film mythique. Et comme vous voyez, je n'ai que des références qui datent du paléolithique.
Donc 1973, mais non, c'est pas si vieux que ça. Bon, ben vous revenez donc dans deux semaines nous en parler après l'avoir vu, c'est ça? Très bien. Notre série du moment, c'est The Marvelous Mrs. Maisel de Amy Sherman-Palladino sur Amazon Prime avec Rachel Brosnahan. Pourquoi est-elle marvelous, cette Mrs. Maisel? Charline, vous qui êtes marvelous aussi.
Oh, c'est gentil. Parce qu'elle se découvre un talent, donc un désir, pour le stand-up à une époque, 1958, où on l'encourage plutôt à gérer son foyer, si douillet et cosy soit-il.
Écoutez, ça fait 15 ans que je bosse dans les clubs, ok? Deux fois, j'ai vu des gens faire le job.
Mais vous parlez de quoi, là?
De votre numéro.
J'ai pas de numéro. Je suis mère de famille.
Super. Avec moi, vous en aurez un.
Salut tout le monde!
J'ai appris qu'une jolie fille des quartiers chics s'était fait coffrer en faisant de la scène.
Où est le crime, là-dedans?
Simulation d'un acte sexuel sur scène.
Le comique de stand-up, il faut que ça marche.
Et devoir compter jusqu'à 5! 1!
C'est fini, les amis! Revenez la semaine prochaine, vous saurez comment ma grand-mère a volé mes perles et baise mon petit copain!
Il est écrit que vous avez mimé une pute jouant avec des testicules.
Ah oui, ça,
oh, oui, elle l'a fait, c'était vachement marrant.
Eh oui, la merveilleuse Mademoiselle Maisel, hein, c'est donc une série française qui était adaptée aux États-Unis, si je comprends bien. Non, c'était la, bon, c'était donc la VF. Mrs. Maisel s'attaque à un bastion masculin en parlant de sa féminité. C'est ce qui vous a plu dans la série, Anne?
Moi, c'est le personnage de l'humoriste, de la femme humoriste. Je trouve que c'est très, très, très romanesque et cinégénique. Et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Et dès qu'une femme monte sur scène et monte ses seins, moi, je suis pour.
Et même si elle ne montre pas ses seins,
c'est moins drôle, mais c'est d'accord.
Qu'est-ce qui vous fait rire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce qui vous réjouit?
Dans l'humour.
Dans l'humour, dans les séries, dans tout ce que vous.
Dans les séries, ouais. Larry David me fait énormément rire.
Ouais. Ça aussi. Enthousiasme.
Ouais. Ensuite, j'aime beaucoup Anna Gatsby, qui a été une des grosses influences de ce livre, quand même. Ouais. Et puis en France, j'aime Marina Rollman, qui est aussi une merveille. Mais c'est vrai que la série et la comédie, c'est aujourd'hui la voie royale de la comédie, ça me semble être dans la série.
Mais vous écrivez des punchlines absolument formidables dans le livre.
Merci.
Est-ce que ça peut se retranscrire sur scène? Est-ce que ça peut être une piste? Est-ce que c'est une idée?
J'ai dû vider toute ma pharmacie pour venir ici. Donc une chose est sûre, c'est que moi, je ne pourrais pas compter sur scène. Mais peut-être que si quelqu'un a envie de le faire, je lui donnerai volontiers toutes ces punchlines.
Est-ce que ça va mieux au bout de cette petite heure passée ensemble?
J'aimerais rester encore un peu avec vous.
Bah, écoute, on va continuer. Il nous reste une dizaine de minutes. Non, mais c'est vrai, parce que vous étiez vraiment très, très, très ému à vous retrouver devant un micro à parler.
Oui, mais j'ai très peur de parler.
Mais pourquoi?
Mais je ne sais pas. Sans doute parce que je suis une femme.
Si c'est la peur de dire des bêtises, regardez-nous, on est tranquille là.
Ah oui, on est très détendu, de dire une connerie, alors qu'effectivement, ce ne serait pas si grave.
Non,
que d'autres le font volontiers.
Nous.
Et je parle pas de... Non, je ne me permettrai pas.
Vous pouvez me regarder comme ça. C'est vous qui me regardez comme ça maintenant. Oh là là,
le rapport s'est inversé.
Ceci étant, si je peux me permettre, puisqu'on parlait il y a un instant et de littérature et de femmes sur scène et qui sont drôles, je ne peux que vous engager, si ce n'est déjà fait, à lire le roman de Nick Hornby qui s'appelle Funny Girl.
Absolument.
Qui est un peu le même genre d'histoire, mais dans les années 60 et à Londres.
Voilà. Merci Charline. Anne, pour finir, votre choix musique, c'est Saoko. C'est un morceau de Rosalía, la jeune artiste espagnole à l'ascension fulgurante. C'est votre style de musique, Anne?
J'adore son dernier album. Et puis c'est vrai qu'il y a un côté reggaeton qui est complètement irrésistible pour moi, parce que je viens du Nil et j'ai beau faire tout ce que je peux pour avoir bon goût, il y a toujours un moment où ça finit en reggaeton ou en zouk. Je peux rien faire, c'est archaïque, ça remonte des profondeurs et c'est puissant. Donc c'est vraiment... Et elle, aujourd'hui, on ne fait pas plus icône pop que Rosalía, je
vous
trouve.
Vous dansez?
Mais bien sûr.
Eh bien, dansez maintenant sur les notes de Saoko, de Rosalía, dans Pop Pop Pop.
Saoko, papi, Saoko.
Chica, ¿qué dices?
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Cuando pone perla en el collar, de pipián, diferente ya no son perla, uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Cuando de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió. Uno. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Makeup de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo.
Biden. Yo me transformo, me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Se me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te loco, bebé. Kim, que cuando te habla un bebé. Un te voy a contar, bebé. La calle no vida, bebé. Como pavo real, bebé. La cerilla camar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé.
A ver si sirven de algo. Los caramelos de la boca.
Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Y ya, toca el estilo. Foca el estilo. Foca el stylist. Foca el estilo. Ten la tijera y ya. Cógela y córtala. Y ya, 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 cógela y córtala. Cógela y córtala. Cógela y córtala.
Ah, je peux vous dire que Anna Krish est tout à fait détendue. Non, mais elle dansait comme une folle dans ce studio.
Et vous de même.
Nous de même, évidemment. Enfin, moi, j'en sais qu'avec le haut. Je ne peux plus, hélas. Le bas. Bien. C'était Rosalía Saoko. Voilà, cette émission, c'est ici que cette émission va se terminer. Mais nous avons une petite pastille qui devrait vous amuser, ma chère Anne. Ça s'appelle le GNQ, le grand n'importe quoi. Et c'est signé Alexandre Ferré.
Alors, où t'étais hier à 23h30, hein? Où t'étais? Ouais, c'est ça, mais bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre.
En raison d'une erreur type WTF, ce sketch radiophonique est momentanément hors service.
Excusez
pour la gêne occasionnée. Je répète, en raison d'une erreur.
N'importe quoi. 289 754 327, 289 754 327, 289 754 328. Et ben voilà, j'en étais sûr. Il me manque un poil.
N'importe quoi.
J'ai gagné une vache laitière en jouant au poker. Puis j'ai gagné un bouc et des piquets en jouant à la roulette. Et puis j'ai gagné un poney et un cheval en jouant à la bataille navale. Mais ceci, un canard au billard, une truie au rami, un coq à la belette, un chameau au bingo, un perroquet au dé, un macaque au jack, une mouette au fléchette, une fine boulée.
Très nette inspiration, Spike Jonze chez Alexandre Ferré. Voilà, merci Anna Krish de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Je rappelle que votre essai Le sexe des femmes est chez Gallimard, est en librairie depuis 2 semaines et que nous avons adoré ici à Pop Pop Pop. Précipitez-vous, chers auditeurs et auditrices. Merci, chère Lino.
Merci à vous.
À demain. Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Alexandre Chenet qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission, Seth Gecko vient nous parler de son nouvel album Mange tes morts. Oui, c'est le titre, oui. Mais avant, demain, rendez-vous partout sur les internets, 36 cases, Pop Pop Pop.